Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Expresso de la politique. Commençons par l'actualité judiciaire. Nicolas Sarkozy va sortir de la prison de la santé après 20 jours de détention provisoire. La Cour d'appel de Paris a ordonné sa mise en liberté sous contrôle judiciaire, alors que l'intermédiaire Alexandre Djouri reste pour le moment détenu et le banquier Wahib Nasser a été remis en liberté. Cet événement, qui arrive aujourd'hui, nous rappelle que même au plus haut niveau de l'État, la justice et la politique s'entrelacent, souvent sous les regards critiques d'une opinion publique profondément méfiante et de plus en plus distante. Et cette défiance, justement, c'est le thème central de notre émission du 10 novembre, la dernière édition de l'enquête « Fracture française » menée par Ipsos pour Le Monde, le CEVIPOF, la Fondation Jean Jaurès et l'Institut Montaigne met en lumière un constat pour le moins alarmant. Les Français ne font plus confiance à leurs dirigeants ni à leurs institutions. Une défiance devenue culturelle. Ce n'est pas un simple malaise de passager. La défiance est enracinée. Selon Ipsos, 8 Français sur 10 estiment que le système démocratique dysfonctionne complètement et que leurs idées ne sont plus représentées. Ce chiffre est révélateur. Il traduit non seulement la frustration de nos concitoyens, mais aussi le sentiment d'exclusion complet du processus politique qui est fait à distance. Emmanuel Macron concentre une partie de cette défiance. 58% des Français souhaiteraient sa démission et près de 65% ne lui font pas confiance pour pouvoir protéger le pays face à des risques de guerre notamment. Le président, qui est largement focalisé en ce moment et concentré sur la politique étrangère, voit sa crédibilité domestique dans son pays s'éroder complètement sous ses pieds. Et ça, c'est quelque chose qui est profondément caractéristique des présidents qui ont fait justement un second quinquennat, qui ont déjà été élus une première fois et qui font face à une forte défiance et qui justement préfèrent se recentrer et se pencher principalement et essentiellement sur le terrain et sur le domaine de la politique étrangère. On a pu le voir notamment avec Emmanuel Macron, avec la reconnaissance de l'État palestinien au mois de septembre, il y a quelques semaines de cela, et demain, normalement, le président français devrait recevoir à l'Élysée le chef de l'État palestinien. Donc on voit vraiment qu'il y a une très forte volonté, comme avec la COP30 qui se déroule en ce moment au Brésil, d'occuper la scène internationale pour justement occulter ce qui peut se dérouler sur la scène franco-française et pour ne pas être confronté à cette réalité qui est extrêmement brutale, comme on l'a vu justement avec ce fiasco, on l'avait dit justement dans la première émission de l'Expresso de la politique, ce vaudeville politique, cette théâtralisation de la vie politique, comme si nous assistions un petit peu à un spectacle de la vie politique en règle générale, que les politiques nous offrent ce spectacle. Et ce spectacle est tellement lamentable qu'il va justement alimenter cette forme de défiance vis-à-vis du politique, puisque les personnes ne se sentent plus normalement considérées et représentées. Mais au-delà des personnalités politiques, comme on vient d'en parler, le problème, comme le montre cette enquête, il est structurel. La perception d'une corruption généralisée, elle touche 2/3 des Français, et 87% estiment que les dirigeants agissent principalement pour leur intérêts personnels et propres. Et ça, cette donnée, justement, elle pose une question fondamentale et majeure en étant justement dans un système démocratique comme le nôtre, que 87% des Français pensent que justement nos dirigeants, notre classe politique, va agir et va prendre certaines décisions en fonction des intérêts qu'elle peut avoir et de ce qu'elle va souhaiter défendre. Et donc, l'intérêt du peuple passe en deçà. Et ce constat, il s'accompagne d'un pessimisme sur l'avenir, sur le futur. 9 Français sur 10 jugent que le pays est dans une situation de déclin. Et près d'un tiers considèrent que la situation serait irréversible, qu'il n'y aurait plus moyen de changer la tendance. Et justement, par ce biais-là, on va pouvoir analyser un espace politique qui est complètement éclaté, morcelé. Parce qu'on parle souvent, et on entend souvent, que ce soit à la radio ou à la télévision, du fameux clivage, qui est très vieux, entre la gauche et la droite. Mais le paysage politique, comme nous le révèle cette enquête, il est extrêmement bien plus complexe que cela. Ce n'est pas seulement un système qui serait divisé entre la gauche et la droite, puisque Ipsos identifie quatre grandes familles politiques selon deux axes. L'axe économique, avec une forme de volonté de libéralisme versus une intervention de l'État, un État qui serait beaucoup plus l'État providentiel, qui va aider les personnes sur le plan notamment de l'économie, sur le plan du social, et l'axe identitaire, qui est l'ouverture à l'immigration versus une forme de fermeture et de repli sur soi. Et cette lecture, si on l'analyse bien et qu'on prend le temps justement de se poser la question par rapport à ça, elle montre que le clivage entre la gauche et la droite, il est insuffisant. Il est insuffisant pour expliquer et pour justement prendre conscience des préférences des Français et de leur positionnement dans le champ politique et dans l'espace politique. Parce que même à l'intérieur des partis dits traditionnels, des partis de gouvernement, les électeurs, ils expriment des valeurs hétérogènes, mélangeant à la fois du conservatisme, du libéralisme et une inquiétude parfois identitaire. Donc c'est-à-dire que nous avons des valeurs, des catégories qui vont se recouper et s'entrelacer et qui sont bien plus complexes et qu'on ne peut réduire justement à cette séparation binaire entre un clivage gauche et droite qui pourrait être un peu simpliste. Cette complexité, elle a des conséquences concrètes sur la fragmentation de l'Assemblée nationale, puisque nous sommes dans cette tripartition de l'Assemblée nationale avec trois grands blocs, et c'est pour ça que ça complique énormément les débats, que ça ralentit les débats, mais justement, on a cette fragmentation comme on l'a vient à peine de le dire, et cette impossibilité de constituer des majorités stables, justement pour pouvoir voter des textes. Et une difficulté pour le parti de gouvernement de répondre aux attentes des citoyens, puisqu'on a, justement là, on le voit en ce moment avec les discussions sur le budget à l'Assemblée nationale, des propositions de loi et avec le nombre d'amendements, une difficulté vraiment structurelle de la part de la classe politique et du gouvernement à pouvoir répondre aux attentes des Français et à leurs aspirations sur le terrain. On l'a vu justement avec les débats et le fait que la société française dans son intégralité et dans son ensemble s'est saisie de la question par exemple de la taxe Zucman et elle a essayé de comprendre et de s'intéresser à la nécessité d'établir et de mettre en œuvre une taxe Zucman pour taxer les plus hauts revenus à un niveau de 2% sur 1800 foyers fiscaux. Et donc ça, on a vu justement que des questions qu'on peut penser justement extrêmement techniques, notamment sur le domaine là de l'économie, les citoyens, c'est pour ça que malgré cette enquête-là, et on peut dire qu'on est confronté à une forme de déclin et de perte de sens de la politique pour beaucoup de nos concitoyens, les citoyens et les citoyennes, ils ont toujours cette volonté de pouvoir parler de politique et de prendre en considération les différents sujets, de se les approprier et de mieux les comprendre. Et on l'a vu notamment avec justement cette taxe Zucman, avec le nombre de débats politiques, des personnes qui ont essayé de se saisir complètement de ce sujet. Et on va voir justement que ce constat qu'on peut dresser actuellement, il amène à une forme d'hétérogénéité des valeurs et de montée du Rassemblement national par la même occasion. Parce que cette diversité des valeurs, elle favorise certains partis, et on va le voir notamment le RN, qui savent jouer sur plusieurs clivages à la fois. Le RN, il attire bien évidemment des électeurs complètement variés, en combinant un conservatisme assez classique, des postures de libéralisme économique qui peuvent plaire à certains électeurs de la droite notamment, et des positions identitaires qui sont très fermes. Il progresse dans les sondages actuellement, comme le démontre cette enquête, et il est de moins en moins perçu comme extrême. Et on le voit à l'inverse, on a une forme de dédiabolisation du RN, de normalisation du parti du RN qui rentre pleinement et complètement dans le champ politique, dans l'arène politique que l'on pourrait dire qui est caractérisée par l'Assemblée nationale, alors qu'on a une rediabolisation, en tout cas une diabolisation de partis comme la France insoumise ou d'une partie de la gauche qui va être caricaturée pour ses positions et justement pour ce qu'elle souhaite défendre. Donc on a vraiment ce parallèle qui est intéressant à faire justement de cette forme du RN qui va progresser dans les sondages et qui est de moins en moins perçu comme un parti extrémiste et qui peut se présenter littéralement comme un parti capable de gouverner pour beaucoup de Français qui pensent que justement c'est un parti qui serait intéressant d'essayer, alors qu'on a une diabolisation de partis justement de la gauche. La gauche traditionnelle, on vient à peine de le dire, elle peine littéralement à se recomposer. On l'a vu justement avec les dernières crises politiques qui s'enchaînent justement en France, avec la démission surprise après 14 heures de la nomination du gouvernement par Sébastien Lecornu, cette démission surprise et son retour directement quelques jours plus tard à Matignon, on voit que les partis traditionnels de gauche, ils ont du mal à donner une réponse coordonnée, structurée et à se recomposer en profondeur. Notamment sur certaines questions qui ne sont pas toujours abordées et qu'on peut laisser parfois à des pans comme l'extrême droite ou la droite sur les questions de l'identité ou de la migration qui ne sont pas forcément parfois abordées. Et c'est ce que montre justement cette enquête, que cette hétérogénéité, elle explique en partie justement ce malaise politique. Et pourquoi certains citoyens se sentent non représentés, même s'ils sont proches des partis dits historiques, c'est-à-dire qu'ils ont pu adhérer dans leur jeunesse ou dans leur parcours de vie à des partis traditionnels comme à la fois LR, la droite, ou des partis de gouvernement, voilà, comme LR et comme le Parti socialiste. Mais on voit justement cette défiance et cette distance qui se met de plus en plus en œuvre. Ce qui est intéressant aussi à voir et ce que souligne cette enquête absolument centrale et cette nouvelle édition qui est sortie fin octobre 2025, c'est cette droitisation des préférences partisanes et les risques que cela laisse à courir pour la démocratie. La société française se droitise progressivement. Les citoyens se préoccupent davantage de sécurité, d'identité, d'ordre public, et moins de clivages idéologiques que l'on a vu et que l'on pourrait dire justement comme purement traditionnels. Le RN, on le voit, il domine largement dans les préférences partisanes et il apparaît notamment comme le favori, c'est ce que révèle cette enquête pour 2027. En parallèle, l'image de la France insoumise reste profondément empreinte et marquée par cette forme de radicalité, mais attire moins l'adhésion transversale que le Rassemblement national. Les Français, et ça c'est un point qui est central dans cette enquête, et je trouve très intéressant, que les Français expriment aussi une volonté croissante d'avoir un chef fort. 85% estiment qu'un vrai chef, entre guillemets bien sûr, pourrait remettre de l'ordre et pourrait permettre de retrouver cet ordre qui a disparu. Ce qui illustre cette frustration vis-à-vis de l'incapacité des institutions à régler les problèmes quotidiens. Et donc ça, on voit que c'est transpartisan, puisqu'on a à la fois des personnes qui vont être du spectre politique, à la fois de la gauche, une partie de la gauche, ce qui se manifeste beaucoup plus à droite et à l'extrême droite, qui vont manifester leur volonté d'avoir ce chef fort qui pourrait justement arriver un petit peu comme le sauveur et pouvoir donc donner cette possibilité d'arriver à une forme de stabilité pour la France et de retrouver ce qui serait perdu. Est-ce que beaucoup de Français soulignent dans cette enquête réalisée Fracture française par l'Ipsos que justement nous allons vers une forme de déclin. Le déclin de la France qui serait même pour certains, comme on l'a dit, irréversible, inéluctable, que l'on ne pourrait plus arrêter et ce qui pose un problème profond. Et donc on voit justement ce qu'on entend beaucoup, que les Français, ils accordent énormément d'importance à la figure du président. Et que, justement, on accorde une place centrale à l'élection présidentielle qui est vue comme le tournant majeur, l'enjeu central. Et justement, le fait de voir cette confirmation dans cette enquête que justement des Français à 85% estimeraient qu'un chef, un vrai chef surtout, pourrait avoir cette capacité et cette possibilité de remettre le pays, on pourrait dire, sur les rails de la stabilité et ralentir cette incapacité des institutions à régler nos problèmes structurels et quotidiens, ça renforce aussi cette idée-là que les regards sont toujours tournés vers l'élection présidentielle, vers l'élection de ce chef providentiel, ce chef présidentiel qui aurait la capacité, la possibilité de résoudre tous les maux du pays et qui serait le sauveur de la nation. Ce qui pose évidemment des limites et ce que montre justement aussi cette enquête, c'est que la figure des maires, elle est en constante augmentation par rapport à la confiance des citoyens. C'est-à-dire que les citoyens, ils accordent énormément d'importance sur le terrain à leur maire, ce qui montre justement cette nécessité d'avoir une proximité entre les personnes sur le terrain de manière très concrète, entre le maire et les habitants, puisque les enjeux nationaux paraissent complètement déconnectés. Donc on a une forme de rapprochement, donc on va se rapprocher de la figure du maire et de sa commune et s'intéresser beaucoup plus à ces thématiques-là. Et dans une dernière partie, on va s'intéresser à la fatigue démocratique, évidemment, et ce rejet aussi qui en découle des institutions. Les partis politiques, on l'a dit, et les institutions, en règle générale, sont massivement rejetées par nos concitoyens. 90% des Français ne font plus confiance aux partis et 80% aux députés. 60%, c'est intéressant aussi, à l'Union européenne. Seuls les maires, je viens justement de le dire, échappent justement à ce qu'on pourrait appeler ce désamour. 68% des Français leur font confiance, y compris parmi les électeurs justement d'LFI et de l'autre côté du spectre politique du RN. Et cette proximité locale, elle illustre que la politique tangible et visible, elle fonctionne et elle est toujours extrêmement présente là où les institutions nationales ont échoué. Les débats publics, on l'a dit, sur la taxe Zuckmann, sur les grandes fortunes, sur la nécessité de pouvoir taxer les grandes fortunes et de la manière dont cela pouvait être réalisable ou non. Et par exemple, on l'a vu avec la loi du plomb sur les pesticides qui montre que lorsque les citoyens sont associés aux décisions, qu'ils ont la possibilité de pouvoir dire ce qu'ils pensent, ils vont retrouver cette forme d'implication et cette volonté à participer. Donc ce n'est pas une fatalité. Ces exemples, ils démontrent que cette participation et cette transparence sont des clés pour pouvoir rétablir la confiance entre à la fois la politique et les citoyens. Comment rebâtir la confiance? C'est une question justement que je me suis posée avant de réaliser cette émission et au cours justement de cette écriture. Comment la reconstruire? Je pense que ça passe par deux niveaux. À la fois, on l'a dit, avec le travail qui est fait de manière considérable et essentielle par les maires, c'est la proximité et la transparence. La transparence, on en aurait évidemment bien besoin avec tous les scandales politico-financiers qui se déroulent en ce moment. Les maires, on l'a dit, montrent que le contact direct fonctionne. Ensuite, dialogue. Et vient l'explication des décisions qui est absolument centrale pour que les personnes puissent comprendre les enjeux. Qu'est-ce que veut dire taxer les plus riches? Par exemple, les débats sur cette taxe prouvent que les citoyens veulent être entendus. Enfin, le fait de repenser la représentation politique dans son ensemble et dans sa globalité pour qu'elle concilie vision nationale et réponse concrète au quotidien des Français, pour essayer de limiter cette déconnexion des politiques où on a en fait cette professionnalisation de plus en plus importante de la classe politique qui est de plus en plus dans cette forme de petite sphère fermée, privée, qui n'entend plus et qui n'est plus soucieuse de ce que vivent et de la réalité des personnes au quotidien. La confiance, elle se mérite chaque jour par une forme de cohérence. La sincérité, la capacité à pouvoir résoudre les problèmes qui sont réels. Les fractures, on l'a dit, sont éminemment profondes, mais pas irréversibles. La France reste lucide, mais extrêmement fatiguée. mais je pense qu'elle est toujours prête à vouloir reconstruire sa démocratie et à chercher à aller de l'avant. Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode de l'Expresso de la politique. On se retrouve dans 2 semaines pour continuer à décrypter l'actualité et réfléchir à l'avenir de notre démocratie tous ensemble.